Combien un détenteur d'un passeport semi-biométrique doit-il débourser pour avoir un passeport biométrique? En effet, il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères annonçait des mesures d'assouplissement pour le remplacement de ce document. Plus de 10 jours après cette annonce faite devant les députés réunis en plénière, notre reporter est descendu sur terrain pour constater si ces mesures sont appliquées ou pas. Un dossier d'Étienne Kalema.
Le détenteur de l'ancien passeport, dont la durée de validité va jusqu'à 2019-2020, bénéficie pour l'obtention du passeport biométrique du droit au paiement d'un forfait équivalent en francs congolais à 100 $.
C'est le lundi 10 octobre que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères affirmaient ces mesures d'assouplissement devant les élus nationaux pour les détenteurs de passeports semi-biométriques. 10 jours après, les requérants s'interrogent.
On avait dit que si tu as l'ancien passeport, tu vas payer 100 $ pour obtenir le passeport biométrique. Mais ils viennent encore de changer. On vient de nous dire que cela se fera d'ici janvier 2018. Pour le moment, tout le monde paye 195 $. Rien n'a changé à la banque. On exige toujours 195 $, même si tu as l'ancien passeport. Au Congo, on parle beaucoup, mais on ne réalise pas ce qu'on a promis. Et on continue toujours de promettre.
D'autres requérants, pour l'urgence d'avoir le passeport biométrique, sont obligés de reprendre la procédure, payer les frais normalement et ne pas attendre le guichet unique annoncé par chez Okitundu.
Je suis pressé, voilà pourquoi je suis obligé de reprendre les démarches au lieu d'attendre le fameux guichet spécial que le ministre a promis pour les détenteurs du passeport semi-biométrique. Depuis que cette annonce a été faite, il n'y a pas de changement. Je vois à la banque, on a écrit 195 $, donc je suis obligé de payer.
Aux affaires étrangères, certains fonctionnaires sont sceptiques de la mise en application des mesures annoncées par le vice-premier ministre. Les députés initiateurs de la question orale avec débat sur cette question des passeports biométriques s'est dit étonné de voir le ministre n'ait pas concrétisé les mesures qu'il a annoncées lui-même, Juvenal Munobo.
Je regrette que ces mesures d'assouplissement ne sont pas appliquées. C'est vrai, la question continue à être traitée à l'Assemblée nationale, mais on aurait dû déjà commencer à appliquer ces mesures. On continue à exiger les mêmes frais qu'on exigeait avant. Dans l'officiel, c'est 185, mais dans la pratique, les gens payent 200, 250, voire même 300. Surtout dans les ambassades du Congo à l'extérieur, en Afrique du Sud, en Belgique, au Canada, les gens payent beaucoup. Pourquoi un gouvernement doit pénaliser sa population? Il faut que le gouvernement protège la population. Le gouvernement ne devait pas sacrifier sa population. Et en tant que député national, je ne pouvais pas mettre devant une telle injustice.
En attendant la mise en application de ces mesures du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, les requérants sont obligés de payer le même frais et se soumettre aux mêmes procédures d'obtention de passeport. Urgence oblige.
Revue de presse.
Le journal des journaux avec Folquin Consoum Sir Africa. Bonjour.
Bonjour Belinda Bosuma Mamba. Bonjour chers auditeurs. L'ONU plaide pour la publication d'un calendrier électoral réaliste vu la situation politique de l'ère. C'est ce qu'on peut lire à la une du quotidien L'Avenir, mais il faut d'abord un certain nombre de préalables pour faire avancer le processus politique, estime Maman Sidikou, chef de la MONUSCO, dans son intervention hier mercredi à New York lors de la séance consacrée au débat du rapport du secrétaire général de l'ONU sur la mission onusienne en RDC, renchérit notre confrère, et un calendrier électoral réaliste, un budget électoral. La décrispation et le respect des libertés sont là les quatre préalables que cette actualité précédée et par ailleurs, Maman Sidikou a dressé un tableau plus que sombre de la situation sécuritaire, humanitaire et politique en RDC et prenant la parole, rapporte actualité précédée, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a demandé à la CENI de publier urgentement ce calendrier électoral et cela conformément à l'accord du 31 décembre. Pour couper court à cet éternel débat sur le calendrier électoral, Corneille Nangaa invite donc les Congolais à se prononcer entre un bulletin de vote de 52 pages et la machine à voter électromanuelle, note le quotidien L'Avenir. En effet, à lire dans l'actualité précédée, ce système est très performant et tout celui qui aura moins de 18 ans sera radieux du fichier électoral, souligne Corneille Nangaa. Selon les projections faites par le président de la CENI, hier mercredi ici à Kinshasa, devant les délégués des partis politiques, l'organisation des scrutins pourrait intervenir au milieu de l'année de 2019, renseigne le journal Le Phare à sa une. L'idée d'une transition sans le président Joseph Kabila, les rassemblements plus que divisés, à lire dans les colonnes du quotidien L'Avenir, Katebe Katoto ne partage pas le même langage avec Félix Tshisekedi et pour Raphaël Katebe Katoto, cofondateur du rassemblement de l'opposition frère de Moïse Katumbi, écrit notre confrère Joseph Kabila, va rester en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Cette déclaration va visiblement à l'encontre de ce que déclarent les autres membres de la plateforme qui exigent le départ du chef de l'État après décembre 2017.
Merci Volker, à tout à l'heure.
Je t'en prie.
L'invité.
Regain d'activité des groupes armés en RDC. Le groupe d'études sur le Congo pense que cette situation profite du contexte politique et sécuritaire actuel qui n'est pas maîtrisé. Et pour en parler, nous recevons Jason Stearns, coordonnateur de cette organisation. Il s'entretient avec Dona Madimba.
Jason Stearns, bonjour.
Bonjour.
À votre avis, comment peut s'expliquer en ce moment-ci une espèce de regain d'activisme des groupes armés en République démocratique du Congo?
Donc, tout d'abord, vous avez raison, c'est un regain. Il y a vraiment une équipe de sens très préoccupante. C'est pas seulement la place à Uvira. Il y a une coalition des Kalimutumboki qui a pris pendant presque une semaine une grande partie de la route nationale à Bunyakiri dans le sud Kivu. Il y a la place des ADF autour de Beni. Donc vraiment, il y a des raisons pour être inquiétés. Alors, il y a deux versions qui pourraient expliquer ce qui se passe. La première a été donnée par le chef de l'État lors de son discours aux Nations Unies. Lui, il a accusé des terroristes d'être à la base de l'INSPE. Il a parlé notamment du Kassai, mais il y a ceux dans la majorité présidentielle qui accusent en général les opportunistes, y inclus dans l'opposition, qui profitent un peu du processus de la crise politique en RDC pour mobiliser des groupes armés contre l'État. Donc ça, c'est la première version. La deuxième version est tout à fait opposée à celui-là, tenue par l'opposition, par le G7, par Moïse Katumbi, Olivier Komitatu, qui disent que c'est l'État lui-même qui est à la base de l'insécurité. Ils sont en train d'utiliser l'insécurité pour comme prétexte pour le glissement électoral, comme prétexte peut-être pour déclarer un état d'urgence. Alors, il est difficile actuellement de dire quelle de ces deux versions est la bonne ou est la vraie raison. Il y a des preuves sur le terrain qui appuient, pour être franc, les deux. Il y a des endroits où on voit l'État impliqué dans la sécurité. Il y a des endroits où aussi on voit l'opposition impliquée dans la sécurité. Et il y a beaucoup d'autres endroits où il est pas du tout clair exactement ce qui se passe.
Est-ce que vous pensez que la MONUSCO a une idée de cette analyse que vous faites, ou alors probablement une bien meilleure idée de ce qui se passe avec ce regain d'activité des groupes armés?
La MONUSCO se trouve dans un embarras, pour être franc, parce que la MONUSCO a le mandat d'un côté de protéger la population civile, c'est ça la priorité, ça devrait être la priorité de la MONUSCO. De l'autre côté, c'est la MONUSCO a le mandat de soutenir l'armée congolaise, le gouvernement congolais dans l'extension de l'autorité de l'État. Alors, qu'est-ce que la MONUSCO doit faire si les deux parties de son mandat se contredisent? Si le même gouvernement qui est en train d'appuyer attaque la population. Donc, la MONUSCO se trouve dans une position vraiment très difficile. Je pense que la MONUSCO fait de son mieux de contrecarrer les groupes armés rebelles. La MONUSCO, par contre, a du mal à contrecarrer les abus qui sont perpétrés par les forces de sécurité elles-mêmes. Par exemple, au Kassai, la MONUSCO ne peut que faire des rapports sur la situation et a très peu de moyens à sa disposition pour contrecarrer les abus des forces de sécurité étatiques.
Alors, la communauté internationale a investi depuis plusieurs années beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens et beaucoup d'intelligence pour essayer de ramener la RDC à un état de pays gérable. Comment pouvez-vous alors expliquer que cette communauté internationale qui a dans le passé contribué à gérer beaucoup d'autres crises et à maintenir une certaine stabilité en RDC accepte ou tolère qu'une autre crise ou une autre instabilité puisse voir le jour en République démocratique du Congo?
Vous avez tout à fait raison que la communauté internationale investit des dizaines de milliards de dollars depuis l'accord de paix de Saint-Tite en 2002, dont la stabilisation du Congo, dans la MONUC, dans la MONUSCO, dans les infrastructures, etc. Mais malgré cela, il faut, et c'est ça le paradoxe congolais, la communauté internationale se trouve assez impuissante par rapport surtout au processus politique. Il est facile de construire des routes, Il est facile de construire des ponts. Il n'est pas du tout facile à construire un gouvernement. Ça, c'est le travail souverain de l'État. Et c'est là où le MONUSCO a du mal.
Comment voyez-vous une solution concrète, définitive en RDC?
Pour moi, il faut trois choses à la fois. Il faut d'abord, et ça c'est le plus important, que tout le monde s'investisse dans une résolution de la crise politique qui sévit en RDC. C'est-à-dire, il faut tenir des élections transparentes, équitables, le plus tôt possible. Ça va être difficile. La famille vient d'annoncer que ce sera plutôt en 2019. Donc, c'est très très difficile à résoudre. Donc, il faut que j'avoue que je suis assez cynique ou pessimiste par rapport à ce moment. Mais il est impératif que ce soit résolu dès que possible, parce que je crains que les forces de désordre, les forces de instabilité vont commencer à vaincre les forces de modération en République démocratique du Congo.
Jason Stearns, je vous remercie.
Merci bien.
C'est notre invité de ce matin, le coordonnateur du groupe d'études sur le Congo.
Okapi Sport.
Le sport avec Kanish Mukongo Shambui. Bonjour.
Bonjour Belinda Boussouma, bonjour à mes sportifs.
Le torchon brûle à la Ligue nationale de football LINAFOOT entre le comité de gestion de cette institution et les clubs sociétaires qui exigent le départ de l'actuel comité.
Des revendications formulées à 8 jours du démarrage de la 23e édition du championnat national de football, la division 1, ce club membre de la LINAFOOT se sont réunis hier au salon du stade des Martyrs de Kinshasa. Un mémorandum a été adressé à la FECOFA par le représentant de club qui réclame, entre autres, le départ du comité d'EFK Capondo arrivé fin mandat. Suivez un extrait de la lecture de revendications faites par Guy Mafuta, président des Dubumba et porte-parole au microphone de Nok Matondo.
Nous ne participerons pas au championnat avec un comité dont le mandat arrive fin et qui ne veut pas fixer la date de l'Assemblée générale extraordinaire élective. Le renouvellement du nouveau comité doit se faire conformément aux textes qui régissent notre football. Le nouveau comité élu devrait se concerter avec les sociétaires en vue d'étudier une formule qui ne défavorise pas la majorité des équipes participantes, dont 20 sur 28 ne jouent que pendant 3 mois durant toute l'année au profit des 8 équipes qui continuent la phase des play-offs. Les négociations avec les sponsors ne prennent en compte que la fédération et elle-même. Les clubs faiseurs de spectacles restent méconnus. Les amendes infligées aux équipes ne sont pas proportionnelles aux recettes que touchent celles-ci. Le calendrier des matchs devrait d'abord tenir compte des dates FIFA et des rencontres de nos équipes engagées dans les diverses compétitions de la CAF.
Du côté de la LINAFOOT, son président Jeff Capondo regrette l'attitude de ses clubs. Suivez.
Il est vrai que nous sommes fin mandat. Nous l'avions dit et nous l'avions répété. Nous nous sommes dit que pour des raisons d'ordre organisationnel, nous avons souhaité privilégier l'intérêt du championnat qui consistait à lancer le démarrage du championnat en attendant que le comité puisse convoquer l'assemblée extraordinaire élective. Cette assemblée qui nécessite non seulement les moyens, mais aussi les temps, les faire en ce moment allait nous perdre beaucoup plus de temps par rapport au championnat.
Jeff Capondo, président de la LINAFOOT, joint au téléphone par Nanambala. À la Ligue nationale, la Ligue de football du Kasaï oriental, Olympique de Mbujimayi OM s'est incliné devant US Kasaï 0-2 contre 2 hier au stade Chikisha, un match de la 4e journée de l'entente urbaine de football de Mbujimayi. En deuxième rencontre, la SC Bénédiction a perdu devant SC Balende par 0-2 contre 1. Le championnat va se poursuivre ce vendredi avec l'autre match, SC Balende contre Olympique de Mbujimayi et puis Aigle Royal contre Bénédiction. Ici à Kinshasa, match nul entre Jechangu et Real de Kinshasa, un but partout hier au stade Père Raphaël de la Kétu. La match de la 4e journée de l'entente provinciale de football de Kinshasa, Pefkin, et puis PJSK a infligé un forfait à Dijak. Au championnat de Goma, on a également joué au stade Le Volcan de Birere. Eskivu United a dominé FC Mwangaza par 3-2. En deuxième rencontre, FC Gol était fort que Brésil 4 4-2. Et puis en volley-ball, pour terminer, les Léopards d'âme de la RDC se sont inclinés hier après-midi devant leur homologue de la Tunisie, 3-7-0, un match la quatrième journée de la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun. Une quatrième défaite d'affilée pour les Congolaises qui sont d'office éliminées. Le retour est annoncé pour ce jeudi.
Merci Caniche pour ces nouvelles sportives. Ainsi s'achève ce journal mis en onde par Jean-Noël Mokondo. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Radio Capi.